Cette série de cours sur le Zohar sera constituée d'une lecture de textes puisés dans cet immense corpus. Qui dit lecture dit forcément une approche du livre comme œuvre littéraire. Il ne s'agit pas, pour une fois, de prendre tous les éléments pertinents pour une étude historique, sociologique, voire même linguistique, pour épuiser tout ce qui peut nous être utile pour notre propre élaboration d'une théorie concernant la rédaction du texte ou son contexte, mais plutôt d'une aventure de lecture, d'un parcours, je dirais presque initiatique, sans pour autant se sortir des limites de la simple et modeste lecture ordinaire, sans prétendre révéler des enseignements ésotériques, mais tout de même, prendre le texte comme il se donne et le lire avec des yeux ouverts et éclairés par certainement tout ce qui a été écrit tout autour, mais en tâchant, en faisant l'effort d'oublier l'immense littérature qui entoure le Zohar. D'abord ses commentaires qui sont très nombreux, on en compte plus de 80, et puis ses interprètes modernes qui décortiquent le texte, et parfois en obtenant des résultats intéressants, pour y puiser les éléments qui justifient une approche savante, académique. Nous allons donc choisir un certain nombre d'extraits, extraits qui, bien sûr, sont pris un peu au hasard, à cause de nos goûts personnels. Pour bien faire, il aurait fallu prendre la totalité du livre et en faire une lecture globale, générale. Ces extraits, nous les accompagnerons de commentaires, notre propre commentaire, qui veut moins éclairer le texte dans ses contenus sous-jacents que de donner au lecteur l'envie d'aller plus loin, d'approfondir et de continuer sa lecture. Peut-être qu'une page réussie est une page qui donne envie de lire une deuxième page, et ainsi de suite. Un bon livre n'est peut-être qu'un livre dont les pages se tournent avec plaisir. Cette approche minimaliste de l'œuvre d'art peut être appliquée au Zohar, bien que le Zohar lui-même ait rarement été abordé comme une œuvre littéraire. Il est considéré comme une œuvre religieuse, et dans l'esprit de nos contemporains, œuvre religieuse se situe à l'opposé d'œuvre littéraire, en ce qu'une œuvre littéraire est l'œuvre d'un auteur qui n'a pas d'ambition de révéler des vérités cachées, des vérités ultimes concernant Dieu, concernant la vie des hommes, mais qui apporte sa pierre à la construction narrative d'une vision du monde. Comme chacun sait, le Zohar est un livre assez célèbre. Le mot Zohar apparaît dans de nombreuses encyclopédies et même dans des dictionnaires. On le définit comme la Bible de l'ésotérisme juif ou un livre de commentaires mystiques sur le Pentateuque. Cependant, cette célébrité du livre, célébrité du reste assez relative, a peut-être desservi la lecture du texte qu'il ne l'a servi. Il l'a desservi dans la mesure où il fournit une approche a priori. Il dit d'avance aux lecteurs éventuels, ce livre, vous allez l'aborder à partir de telle et telle perspective, comme un livre qui est ceci et qui est cela. Cette vision préalable constitue une sorte d'écran face au texte dans son contenu littéraire. Il faudrait d'abord ouvrir le livre, recevoir les impressions qu'il nous donne pour ce qu'elles sont, et puis ensuite confronter ces impressions avec les labels et les étiquettes que lui donnent les faiseurs d'encyclopédies. Certes, on a dit aussi que le Zohar était un roman mystique, mais déjà le terme mystique frappe le texte d'une figure qui n'est peut-être pas la sienne, qui est un marquage, un masque aussi, qui fait du texte, du livre, une œuvre religieuse et qui camoufle et dissimule son essence littéraire. D'abord, il faudrait donner quelques précisions, quelques additions à ce que nous venons de dire. La précision est la suivante. Le Zohar, tout d'abord, n'est pas seulement un corpus, bien qu'il soit aussi un corpus littéraire ou un corpus religieux. C'est d'abord, tout d'abord, une œuvre d'écriture, et donc ce que l'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler une œuvre littéraire. Autrement dit, qu'il a un contenu narratif, qu'il se présente comme un récit. Et son caractère de narrativité, ce qu'on appelle parfois le caractère romanesque du Zohar, bien que ce mot est assez inconvenant, on l'admettra volontiers, par rapport à un livre rédigé au XIIIe siècle, le caractère littéraire du texte se découvre à chacune de ses pages, à chacune de ses lignes, et cela, malgré le caractère exégétique qui accompagne la plupart de ses développements. Certes, le Zohar, dans sa plus grande partie, suit le livre du Pentateuque. Chaque partie du Zohar correspond à une partie du Pentateuque, et d'ailleurs non seulement du Pentateuque, mais aussi de quelque autre livre biblique, comme certains des cinq rouleaux. Mais cet accompagnement que le Zohar fait au texte biblique, le fait qu'il le commente, qu'il l'interprète, qu'il le cite tout au long, ne le réduit pas pour autant, le mot réduire ne veut pas ici dire diminuer, mais ne le ramène pas autant, pour autant, au statut d'un livre de commentaires, comme il en existe de nombreux depuis la fin de l'Antiquité. Si le Zohar a la forme d'un midrash, c'est-à-dire d'un commentaire de forme rabbinique, s'il a parfois même la forme d'un commentaire de type médiéval, comme le commentaire de Rashi, d'Abraham ibn Ezra et de quelques autres, il demeure néanmoins une œuvre qui est parfaitement autonome et qui se sert du texte biblique comme d'un appui plutôt que qu'il ne cherche à servir le texte biblique en orientant sa lecture. Je veux dire par là que le texte du Zohar n'est pas un texte soumis au livre canonique. Prend le texte biblique comme un tremplin pour ses propres développements, qui conservent un caractère singulier, personnel, narratif. Et nous en allons avoir plusieurs exemples des textes que nous allons lire à partir de maintenant. Le premier texte, eh bien, nous le trouvons dans le Zohar sur la Genèse, commentant la section Vayechi, c'est-à-dire la dernière section de ce livre biblique, au folio 223a, 223b. Je lis d'abord le passage que nous allons pas ensuite essayer d'accompagner de notre modeste interprétation. Une tradition rapporte qu'un jour, Rabbi Siméon revenait de Cappadoce à Lod. Rabbi Abba et Rabbi Juda étaient à ses côtés. Rabbi Abba, fatigué, courait derrière Rabbi Siméon qui avait une monture. Rabbi Abba dit, « Certes, derrière Hachem ils marcheront, comme un lion il rugira. » Osée 11.10. Rabbi Siméon descendit et lui dit, il est écrit cependant, « Je restai assis sur la montagne 40 jours et 40 nuits. » Deutéronome 9.9. La sagesse, bien sûr, ne s'établit que lorsque l'homme est assis et ne marche pas, qu'il se tient immobile. Nous avons expliqué déjà pourquoi il est écrit « Je restais assis ». Le présent sujet exige une pause. Ils s'assirent donc. Rabbi Abba dit, il est écrit, « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. » 1 Roi 5.10. Qu'est-ce que la sagesse de Salomon? Qu'est-ce que la sagesse de tous les fils de l'Orient? Et qu'est-ce que la sagesse d'Égypte? Rabbi Siméon lui dit, « Viens et vois. » À plusieurs reprises, ce nom a fait l'objet d'une explicitation. Quand la lune est totalement pleine, il est écrit, « Elle surpassait. » 1 Roi 5.10. Cela eut lieu à l'époque de Salomon, où elle grandit, fut bénie et subsista en plénitude. Une tradition nous enseigne. Mille hautes montagnes sont devant elle, toutes vis-à-vis d'elle son souffle de vent. Mille fleuves la breuvent, et d'une gorgée elle les avale. Ses ongles saisissent 1070 directions, et ses mains tiennent 80 000 directions. Rien ne lui échappe de ce côté-ci, et rien ne lui échappe de l'autre côté. Plusieurs milliers de champions sont accrochés à ses cheveux. Un jouvenceau, dont la taille s'étend d'un bout du monde à l'autre, sort d'entre ses pieds, muni de 60 lanières de feu. Il est vêtu de ses couleurs et a été chargé des êtres d'en bas qui sont sous son égide. Ce jouvenceau tient 613 clés célestes appartenant à la mer, et toutes ces clés sont suspendues à la pointe du glaive fixé à sa ceinture. Ce jouvenceau est dénommé Enoch, fils de Yéred, dans certaines braïtotes, selon les mots Éduc, Hanor, le jeune homme selon sa voix. Proverbe 22:6. Si tu dis, il s'agit d'une Mishnah et non d'une Braïta. Dans notre Mishnah, à nous, nous avons établi ces choses. Cela a été dit et te revient au même. Sous lui s'abritent les animaux du champ. Daniel 4:9. Car une tradition nous enseigne, de même qu'Israël sacré d'en haut est appelé fils de sa mère, selon les mots, je suis un fils pour mon père, tendre et chéri devant ma mère, Proverbe 4:3, et il est écrit, Israël est mon fils premier-né, Exode 4:22, ainsi en va-t-il en bas. Celui-ci est appelé jouvenceau de sa mère, comme il est écrit, le jouvenceau Israël, je l'ai aimé, Osée 11:1. Et de plusieurs façons, il est nommé fils de Yéred, cela est établi. Pourtant, viens et vois. Il est vraiment fils du descendu, Yéred, car une tradition nous apprend ceci. La Shekhina a effectué 10 descentes sur terre. Toutes ont été explicitées par les compagnons, et cela a été dit. Au-dessous de lui se trouvent de nombreux animaux appelés animaux du champ. Ce sont véritablement les animaux du champ. Sous ces animaux sont attachés les cheveux de la lune appelés comètes, astres du sceptre, précisément. Kochavia de Charvita, sceptre Charvita, agent des mesures, agent des balances, agent des sévérités, agent des fauchages, tous sont dénommés cheveux pourpres. Ses pieds et ses mains happent tel un lion féroce qui saisit sa proie. Il est écrit à ce propos, il déchire et il n'est personne pour délivrer. Michée 5:7. Ses ongles, ce sont tous les êtres qui rappellent les péchés des hommes. Ils écrivent et notent leurs fautes avec l'acharnement du dur jugement. Il est marqué à ce sujet, « Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec un ongle de diamant. » Jérémie 17:1. Qu'est-ce que le diamant, Shamir ? Et ce qui marque et perce la pierre et qui la taille de tous côtés. La rognure de ses ongles, ce sont tous ceux qui ne sont pas attachés au corps du roi et qui têtent le côté impur quand la lune commence à diminuer. Et comme le roi Salomon hérita de la lune en sa plénitude, il voulut aussi en hériter dans son incomplétude. Aussi s'adonna-t-il à la science des démons et des esprits pour hériter de la lune dans tous ses aspects. Durant la vie du roi Salomon, la lune brilla à tous égards, ce qui exprime les mots « la sagesse de Salomon surpassait » où elle fut accrue. 1 Roi 5:10. Elle fut accrue précisément de la sagesse de tous les fils d'Orient, Ibidem. Il s'agit là d'un secret élevé concernant le verset « Voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom » Genèse 36:31. Ceux-ci sont appelés fils de l'Orient ou fils du passé, car aucun d'eux ne subsista, sauf celui qui comprenait mâle et femelle, un dénommé Hadar, comme il est écrit. Hadar régna à sa place, Ibidem 39. Une tradition enseigne que, même si la lune brilla alors, elle ne brilla pas parfaitement avant le règne de Salomon, qui convenait pour lui correspondre, comme nous l'avons établi. C'est pourquoi sa mère était Bethzabée. Bathsheba égale la fille de l'Heptade. Et de toute la sagesse de l'Égypte, 1 Roi 5:10, il s'agit de la sagesse inférieure appelée servante qui est derrière la meule. Tout cela était inclue en elle. La sagesse de Salomon, la sagesse des fils d'Orient et la sagesse d'Égypte. Rabbi Abba dit, « Béni soit le miséricordieux qui m'a permis de te questionner et qui m'a fait profiter de cet exposé. J'ai mérité d'entendre toutes ces paroles. » Le texte du Zohar que nous venons de lire, bien qu'il soit assez court, offre l'avantage d'offrir à la fois une illustration concernant Rabbi Shimon ben Yochai, le protagoniste principal du Zohar, le héros comme on dit, et puis d'offrir des références importantes à deux constituants du monde divin, deux constituants essentiels, bon, ils sont tous essentiels évidemment, mais deux constituants qui ont une personnalité particulièrement riche dans le Zohar, à savoir la Shekhina, dépeint ici en partie comme la lune et en partie comme une femme chevelue, et un autre constituant qui n'appartient pas proprement dit, en tout cas dans le Zohar, au monde divin, généralement, mais qui en est en quelque sorte un appendice, une annexe, et qui n'est autre que l'archange suprême, l'archange du nom de Métatron. Métatron dans le Zohar qui est appelé ici le Jouvenceau. Ces trois éléments vont retenir notre attention. Notons d'abord que le texte met en scène brièvement un dialogue entre Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Abba. Un dialogue et une anecdote. Le Zohar regorge d'anecdotes semblables. Parfois elles sont développées, détaillées. Souvent, comme ici, elles ne sont que de brèves notices qui semblent retracer un épisode de la vie de nos protagonistes, mais qui sont riches, malgré leur côté bref souvent, d'enseignements importants. De quoi s'agit-il ici? D'abord, il est fait allusion à une tradition. Quand le Zohar dit une tradition, il s'agit le plus souvent d'une tradition ésotérique. C'est intéressant de voir que le Zohar emploie ce terme comme un substitut de ce qu'on pourrait s'attendre, il était une fois, ou bien encore un récit ou une histoire est rapportée au nom d'eux. Là, ici, et nous l'avons vu dans un cours précédent, l'insistance est mise sur la notion de tradition. Autrement dit, d'un enseignement fidèlement transmis de génération en génération, enseignement relatif à une anecdote qui concerne Rabbi Shimon ben Yochai. Celui-ci, nous dit le Zohar, revenait de Cappadoce, à Lod. Donc, il voyage, comme souvent dans le texte du Zohar, allant de Cappadoce à Lod. Évidemment, il ne faut pas voir dans ces villes des localisations géographiques précises. Il s'agit plutôt de cités imaginaires qui sont essentiellement des noms qui font rêver et qui donnent le sentiment d'un long déplacement. Avec Rabbi Shimeon, il y a Rabbi Abba et Rabbi Yehuda, Rabbi Juda. L'un d'eux, Rabbi Abba, est fatigué parce qu'il court derrière Rabbi Shimeon qui, sans doute parce qu'il est le plus âgé, la figure la plus importante, la plus prestigieuse, se déplace sur une monture. Le texte ne précise pas s'il s'agit d'un cheval ou d'un âne. Rabbi Abba court derrière Rabbi Shimon ben Yochai et il se fatigue. Et il dit, hein, ce qu'il lui amène à dire, en citant un verset biblique, derrière Hachem, c'est-à-dire derrière Dieu, derrière le Seigneur, ils marcheront comme un lion, il rugira. Il faut bien savoir que ce verset n'est pas mis ici pour rien. Il s'agit simplement d'une allusion au fait que Rabbi Shimon ben Yochai, derrière lequel court Rabbi Abba, derrière lequel il s'épuise à courir, eh bien, est une sorte de représentation de Dieu lui-même. Le verset dit « Derrière Hachem, ils marcheront, comme un lion, il rugira. » Ce lion qui va rugir, et qui est une figure, une métaphore pour la divinité derrière laquelle l'on marche, à la suite de laquelle l'on se déplace. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, d'un déplacement physique, mais d'une façon de suivre les conceptions, de suivre les lois, de suivre la trace à travers son enseignement, à travers sa parole, à travers sa Torah. Eh bien, ce Seigneur derrière lequel l'on marche, eh bien, c'est ici Rabbi Shimon ben Yochai. Ce n'est pas la première fois que le Zohar assimile, par le biais d'une citation biblique, Rabbi Shimon à la divinité, ou à la Torah elle-même. La Torah qui est le représentant de la divinité. Et donc Rabbi Shimon ben Yochai, qui d'une certaine façon incarne cette Torah, cet enseignement divin, eh bien, représente par là même la divinité. Rabbi Shimon ne reste pas sur sa monture puisqu'il voit Rabbi Abba fatigué. Il descend et il lui dit, comme pour tempérer les ardeurs de Rabbi Abba et pour lui faire accepter une pause, un repos, il lui cite un verset tiré de Deutéronome 9:9. Il est écrit cependant, « Je restais assis sur la montagne 40 jours et 40 nuits. » Alors ce verset du Deutéronome, on l'aura compris, fait allusion à Moïse, qui est demeuré sur la montagne du Sinaï, pendant 40 jours et 40 nuits, afin de recevoir la Torah. Et de cet épisode, il est dit que Moïse était resté assis. Autrement dit, c'est en la position assise, et non pas en mouvement, en marche, que la réception de l'enseignement de la Torah s'effectue, selon ce verset. Ce qui justifie le fait que Rabbi Shimon descend de sa monture et va proposer à Rabbi Abba de s'asseoir, de se tenir immobile pour discuter et pour transmettre la tradition. Rabbi Shimon tire de ce verset la sentence suivante. La sagesse ne s'établit que lorsque l'homme est assis et ne marche pas, qu'il se tient immobile. Évidemment, on peut comparer ce passage avec deux textes du Talmud, Eroubine 64b et Megillah 21a, passage du Talmud qui se rapporte au fait d'être assis pour recevoir un enseignement, mais surtout, cette mention, cette maxime de Rabbi Shimon fait contraste avec d'autres passages dans le Zohar où l'enseignement est transmis pendant la marche. Là, au contraire de la marche qui est souvent dans le Zohar exaltée comme le moment le plus favorable à la transmission d'un enseignement, enseigner en marchant, n'est-ce pas la forme de transmission du savoir la plus en vogue tout au long du Zohar? Eh bien ici non, c'est au contraire le fait de se tenir immobile, assis, pour recevoir la sagesse. Le présent sujet exige une pause, il s'assied donc. Il semble bien qu'il y ait deux formes d'enseignement. Un enseignement qui peut être favorablement et de façon parfaitement légitime transmis lors d'une marche, d'une déambulation, d'une traversée, d'un voyage, et puis un enseignement de nature plus profonde qui, lui, n'est transmis qu'à la condition d'être en position assise, en position de réception, d'écoute silencieuse, de concentration. Et c'est à cette position que Rabbi Shimon invite ses compagnons de voyage. Rabbi Abba reprend la parole et il cite un verset qui avait fait l'objet auparavant, je n'avais pas cité l'ensemble du texte, mais seulement une partie, qui avait fait l'objet du développement précédent. À propos de la sagesse de Salomon qui dépassait la sagesse de tous les fils de l'Orient, les Bnei Kedem, qui fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, et toute la sagesse de l'Égypte. Verset tiré du livre des Rois, livre 1, 5, 10. Qu'est-ce que la sagesse de Salomon? qu'est-ce que la sagesse de tous les fils de l'Orient ? Et qu'est-ce que la sagesse d'Égypte ? Voilà trois formes de sagesse, chacune mérite d'être spécifiée. Rabbi Shimeon répond. Il répond en invoquant l'épisode essentiel de la vie du roi Salomon, qui est celui où la lune est totalement pleine, puisqu'il est dit dans un midrash, n'est-ce pas, que lorsque le roi Salomon régnait, la lune était dans son plein quartier. Quand la lune est totalement pleine, il est écrit que la sagesse de Salomon surpassait, n'est-ce pas, la sagesse des fils de l'Orient comme la sagesse d'Égypte. Alors évidemment, quand il est question de la lune et de cette sagesse qui est liée à la lune, ça la désigne la Sephira Malchut, ou encore la Shechina, la royauté, la dixième émanation du monde divin. C'est à l'époque du roi Salomon où la lune, c'est-à-dire la Sephira Malchut, la présence divine, sa dimension féminine, grandit, fut bénie, c'est-à-dire, dans le langage du Zohar, qu'elle fut baignée, saturée par les influx venant des séphirotes supérieures, des épanchements des mondes divins supérieurs, et qu'elle subsista en plénitude. À la suite de cette évocation de la lune, somme toute assez classique et fréquente dans le Zohar, de la lune au temps du roi Salomon, le Zohar ici introduit une description que l'on retrouve très rarement et qui est particulièrement intéressante. La lune, c'est-à-dire la Sephira Malchut, la Shechina, est décrite ici dans des termes extrêmement personnels et assez effrayants. Voici comment elle apparaît. La lune, ou encore même la sagesse, la Chochma d'en bas, auquel la sagesse du roi Salomon est attachée. 1000 hautes montagnes sont devant elle, toutes vis-à-vis d'elle sont souffles de vent. 1000 fleuves l'abreuvent, et d'une gorgée elle les avale. C'est carrément un caractère monstrueux, gigantesque. Cette Shechina, cette figure féminine, est dotée d'une puissance extraordinaire, d'abord d'une taille gigantesque, si bien que les hautes montagnes, c'est-à-dire les anges, les archanges, dans la terminologie du Zohar, ces forces angéliques devant elles ne sont que comme un souffle de vent. 1000 fleuves l'abreuvent, c'est-à-dire tous les canaux qui découlent des séphirotes d'en haut convergent vers elle, et l'arrosent des influx divins, et d'une gorgée, elle les avale. Comme il est dit, n'est-ce pas, dans un autre verset du livre de l'Ecclésiaste attribué au roi Salomon, tous les fleuves vont vers la mer, et la mer ne se remplit pas. C'est-à-dire qu'elle est toujours avide. La dernière séphira, des influx qui viennent d'en haut. Et d'une gorgée, elle les avale, comme un animal monstrueux. L'image ici est sans ambiguïté. Ses ongles saisissent 1070 directions. Ses ongles, c'est-à-dire ses extrémités qui la dépassent, qui sont en quelque sorte ses prolongements. Et ses mains tiennent 24 000 directions. Ses ongles, c'est-à-dire ce qui a partie liée aux forces extérieures, aux clipotes, aux coquilles, qui sont aussi les nations du monde, les 70 directions, c'est une allusion aux 70 peuples, c'est-à-dire ce qui se situe, les entités, les archanges et les peuples qui en sont les représentants, se situe à l'extrémité, à la périphérie du monde divin. Et ses mains tiennent 24 000 directions. Rien ne lui échappe de ce côté-ci, c'est-à-dire rien ne lui échappe du côté du monde divin, dont elle est le réceptacle, et rien ne lui échappe de l'autre côté. Ici, de l'autre côté, ce n'est pas du tout une expression verbale anodine. rien ne lui échappe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle a la maîtrise, qu'elle enveloppe, qu'elle étend sa puissance, ses ongles, jusqu'à l'autre côté. L'autre côté, c'est-à-dire le monde démoniaque, le côté extérieur à la sainteté. Le mot « autre côté », je le rappelle très rapidement, est l'expression consacrée dont le Zohar se sert pour désigner les puissances extérieures au monde divin, voire les puissances du mal, les forces impures. Et même de ce côté-là, rien ne lui échappe. Je vous signale d'ailleurs qu'un verset souvent est cité à cette occasion, un verset selon lequel son royaume, le royaume divin, s'étend dans tous les règnes. Allusion au fait qu'il s'étend y compris vers les règnes impurs. Le Zohar continue. Plusieurs milliers de champions sont accrochés à ses cheveux. Alors, ces champions, ce sont évidemment des puissances et des héros angéliques qui sont suspendus à sa chevelure. Sa chevelure désigne également, bien entendu, des forces ou des aspects de la Shekhina qui sont à la fois liés à elle et qui sont extérieurs à elle, qui poussent d'elle, qui sortent d'elle, sans lui être intrinsèquement liés, mais pourtant qui viennent d'elle. Il s'agit de forces du côté du jugement, puisque les cheveux, les poils en général, dans le Zohar, sont les symboles des puissances du jugement, des puissances de sévérité. Cette description de la Shekhina comme puissance terrifiante a d'ailleurs été étudiée, en tout cas citée par Gershom Scholem dans son ouvrage publié en français sous le titre « La mystique juive, les thèmes fondamentaux » édité aux éditions du Cerf à Paris en 1985, et le passage de Scholem se trouve à la page 197. Le Zohar ensuite entame la description du Jouvenceau. Le Jouvenceau, c'est-à-dire de l'archange Métatron, le chef des anges, qui est doté d'une taille gigantesque, selon l'angélologie juive ancienne, ainsi qu'on peut la retrouver dans le livre hébreu d'Enoch, voir par exemple le chapitre 9 de cet ouvrage. Un Jouvenceau dont la taille s'étend d'un bout du monde à l'autre, donc une taille qui est absolument identique à celle de l'univers lui-même, une taille qui correspond d'ailleurs à celle du premier homme au moment de sa création, avant qu'il ait été diminué, selon un ancien Midrash, qui voyait dans le premier homme, avant la faute, au tout début, une entité quasiment archangélique, et le Jouvenceau, donc Enoch, Métatron, a gardé cet aspect qui était celui d'Adam, ce qui permet peut-être de penser que Enoch Métatron n'est autre qu'une sorte d'Adam éternel, d'Adam qui a subsisté malgré le devenir terrestre de l'Adam du jardin d'Éden, de l'Adam de la faute. Un Jouvenceau donc, de taille gigantesque, sort d'entre ses pieds. Il sort d'entre ses pieds évidemment parce que pour le Zohar, le Jouvenceau, Métatron, cet archange suprême, est le véhicule de la Shekhina, est le serviteur de la dernière dimension du monde divin. Et à ce titre, il se situe juste au-dessous d'elle, dans sa périphérie immédiate. Il sort d'entre ses pieds, dans la partie inférieure donc du monde divin, muni de 70 lanières de feu. Autrement dit, il est muni de lanières de feu, c'est-à-dire des moyens de châtier, de punir, puisqu'il est à la fois le gardien des anges, celui qui les redresse, celui qui les organise, et également le porteur des ordres de la Shekhina, celui qui va transmettre ses commandements au monde inférieur. Il est vêtu de ses couleurs et a été chargé des êtres d'en bas qui sont sous son égide. Il est vêtu de ses couleurs, c'est-à-dire qu'il est vêtu des couleurs de la Shekhina. Ces couleurs, d'ailleurs, dans d'autres passages, nous précisent qu'il s'agit des couleurs de l'arc-en-ciel. Métatron est une sorte de représentant à l'image de la Shekhina. Il en porte les couleurs, littéralement. Et il a bien sûr à sa charge les êtres d'en bas qu'il commande. Il est appelé aussi d'ailleurs le prince du monde dans d'autres textes. Il est le roi du monde, le prince du monde. Ce jouvenceau tient 613 clés célestes appartenant à la mer. La mer, c'est ici bien sûr la Shekhina, la dixième séphira. Et toutes ces clés sont suspendues à la pointe du glaive fixé à sa ceinture. Ces clés célestes, évidemment, correspondent aux 613 commandements. Les 613 clés, ce sont les 613 commandements que compte la tradition rabbinique. Elles représentent des anges dont chacun est lié à un commandement, à une mitzvah particulière. C'est lui qui en est chargé. C'est le prince angélique, l'archange des commandements, l'archange des rites, des pratiques rituelles. Et si ces clés sont fixées à la pointe du glaive, qui est sur sa ceinture, tout simplement parce que du respect ou de l'irrespect de ces commandements va dépendre le sort concret, va dépendre le fait que les hommes vont être punis, châtiés ou bien récompensés, rétribués. C'est la clé, si j'ose dire, de la rétribution qu'il porte attachée à sa ceinture. Ici, bien sûr, c'est une image extrêmement colorée, où ces commandements sont représentés comme des anges, des puissances angéliques, sous forme de clés, attachées au glaive qu'il porte sur sa ceinture. Ceinture qui, bien entendu, est également une allusion au caractère anthropomorphe de cet archange suprême. Ce jouvenceau est dénommé Enoch, fils de Yéred. Alors, le nom d'Enoch, fils de Yéred, Hanor ben Yéred, c'est un nom biblique. Un verset est cité, alors là c'est une interprétation du Zohar. Éduque le jeune homme selon sa voie. Hanor le Nahar, les filles d'Arco. Et éduque le jeune homme, se dit en hébreu Hanor. Et Hanor, le Zohar y voit, une allusion à Hanor, Enoch. Enoch, identifié à Métatron, le jouvenceau dont il vient d'être question. Mais il y a ici une petite contestation. Il ne s'agirait pas de certaines Beraïtot. Et la Braïtot, les Braïtot ici désignent très probablement les écrits de la littérature des palais, considérés comme des Mishnayot deutérocanoniques, c'est-à-dire des textes qui n'ont pas été intégrés dans la Mishnah, c'est-à-dire dans le code de loi écrit par Rabbi Yehuda Anassi au IIe siècle, mais qui ont été conservés à sa périphérie, comme des traditions autorisées, mais qui n'ont pas la même force d'autorité. Or, selon une autre version, n'est-ce pas, une contestation ici, il s'agit d'une Mishnah et non d'une Mraïta. Parce que dans notre Mishnah, à nous, nous avons établi ces choses. Cela a été dit et tout revient au même. Quand le Zohar emploie le terme, il l'emploie à plusieurs reprises, notre Mishnah à nous, Matnitin Dilan ou Matnita Dilan, il fait allusion au corpus de la tradition ésotérique, à une Mishnah qui n'est pas la Mishnah connue, la Mishnah transmise par Rabbi Yehuda Anassi et ses disciples, mais à une Mishnah qui est incorporée au Zohar lui-même et dont le Zohar se considère comme étant en quelque sorte l'écho ou la Gemara, c'est-à-dire le commentaire, l'étude amplifiée. Donc cela ne fait pas de différence qu'il s'agisse d'une Braïta, d'un enseignement extra-mishnique ou d'une Mishnah ésotérique à proprement dit. Sous lui, continue le verset de Daniel 4:9, s'abritent les animaux du champ. Quand il s'agit d'animaux, quand le mot animal est employé dans le contexte angélologique, il s'agit bien sûr des chayot, des animaux ou des behemot, une autre forme d'ange, de puissance angélique. Une tradition enseigne, de même que l'Israël sacré d'en haut est appelé fils de sa mère, autrement dit, l'Israël sacré d'en haut, c'est la séphira Tiferet, la septième séphira. Elle est appelée fils de sa mère, cette séphira, parce que elle procède de la séphira Bina, le discernement, qui est la mère d'en haut. Et un verset de Proverbe 4:3 rappelle « Je suis un fils pour mon père, tendre et chéri devant ma mère. » Et il est écrit « Israël est mon fils premier-né ». Donc Israël est identifié à cette séphira, la séphira Tiferet, appelée « fils de sa mère », c'est-à-dire procession de la séphira Bina, de la mère d'en haut. De même, Israël d'en bas, c'est-à-dire Israël, l'Israël historique, l'Israël du texte biblique, le peuple d'Israël, est appelé jouvenceau de sa mère, est identifié au jouvenceau de sa mère, c'est-à-dire au Nahar, au jeune homme, comme il est dit dans un verset d'Osée 11:1, le jouvenceau Israël, je l'ai aimé. Autrement dit, Métatron, l'archange suprême, est identifié ici à l'Israël d'en bas. Cette identification ne doit pas vraiment surprendre, bien qu'elle ne soit pas si habituelle, dans le Zohar en tout cas. Elle ne doit pas surprendre parce que, de même que le fils d'en haut et la procession de la séphira Bina, c'est-à-dire de la mère d'en haut, le fils d'en bas, ne peut être qu'en relation avec la Shekhina, la mère d'en bas, Israël. Or, il est dit de ce fils d'en bas qu'il est aussi Métatron, qu'il est aussi l'archange suprême. Donc Israël d'en bas, le peuple d'Israël, est, je ne veux pas dire incarné, parce qu'il s'agit plutôt d'une forme d'angélification ou d'angélisation, mais en tout cas représenté, matérialisé, ou plutôt spiritualisé, sous la forme de l'archange le plus élevé dans la hiérarchie angélique, qui est Métatron. Vous savez que dans la tradition classique, déjà dans le livre de Daniel, l'archange d'Israël, c'est Michaël, le prince Michel, le prince Michaël, l'archange le plus élevé dans la hiérarchie. Cet archange Michaël, Michaël, a été identifié également à Métatron, dans beaucoup de textes de la littérature juive ancienne. Ici, c'est comme si Israël, qui était protégé, qui avait comme protecteur Michaël, était identifié à son protecteur. Et le texte déclare, Rabbi Shimeon indique, et de plusieurs façons, il est dénommé fils de Yéred. Cela a été établi. Pourtant, viens et vois. Alors, le Zohar ici va donner sa version propre. Pourquoi est-il appelé fils de Yéred, c'est-à-dire fils du descendu, puisque Yéred veut dire celui qui est descendu? Eh bien, parce qu'une tradition nous apprend ceci. La Shekhina a effectué 10 descentes sur terre. Toutes ont été expliquées par les compagnons, et cela a été dit. Alors cette tradition, on la retrouve dans les Pirkei de Rabbi Eliezer au chapitre 14. Cette tradition selon laquelle la Shekhina a effectué 10 descentes de degré en degré. Alors il s'agit bien sûr de différents épisodes bibliques comme la rencontre entre Dieu et Abraham, la descente au Sinaï et d'autres épisodes encore. La Shekhina est descendue de 10 degrés, s'approchant de plus en plus. Ensuite, le texte d'ailleurs du Midrash précise qu'elle est remontée de degré en degré. Elle a parcouru en sens inverse ces 10 degrés qu'elle avait descendus. Mais ici, ce qui importe, c'est de voir que le Zohar entend par fils de Yéred, fils de la Shekhina. Puisque Yéred, ça veut dire celui qui est descendu. Et celui qui est descendu, eh bien, c'est là, bon, peu importe ici le masculin ou le féminin, c'est la Shekhina qui est descendue. Donc, Métatron, ou plutôt Enoch, comme fils de Yéred, qui est identifié bien sûr à Métatron, est le fils du descendu, c'est-à-dire le fils de la Shekhina, son enfant, son fils bien-aimé. son premier-né Israël. Au-dessous de lui, donc au-dessous de cet archange, Métatron, ce jouvenceau, se trouvent de nombreux animaux appelés animaux du champ. Ce sont véritablement les animaux du champ. Alors évidemment, le Zohar veut dire par là qu'il s'agit véritablement des animaux, c'est-à-dire des habitants, ici en l'occurrence des anges, qui habitent, qui se déploient, qui vivent sur, c'est-à-dire à partir d'eux, du champ. Le champ, c'est ici une désignation évidemment de la Shekhina elle-même, puisque la Shekhina est appelée le champ dans le texte du Zohar. Le champ, c'est AMP, bien entendu. Tous ces animaux sont attachés aux cheveux de la lune, appelés comètes, astres du sceptre, précisément. Alors, nous allons nous étendre un petit peu sur ces cheveux de la Shekhina, sur ces cheveux appelés comètes, ainsi que astres du sceptre.